les allumeurs de réverbères.
La rubrique hymne international.
La Palestine. La Palestine est un État situé au Moyen-Orient, reconnu par 136 États de l'Organisation des Nations Unies, qui revendique la reconnaissance de ces territoires, aujourd'hui partiellement occupés par Israël. Cette région a une histoire très compliquée. Essayons de faire un tour d'horizon, vous verrez que l'histoire est surprenante. Au XIIe siècle, le territoire de la Palestine actuelle était régi par les Mamelouks, des descendants d'esclaves. Leurs ancêtres, dès le IXe siècle, étaient choisis dès l'enfance parmi les captifs non musulmans en provenance du Turkestan actuel, du Caucase, d'Europe orientale et de Russie méridionale. Ils étaient choisis pour intégrer la garde des califes abbassides, des cousins de Mahomet situés à Bagdad, en Irak. Élevés loin de leur pays d'origine, les enfants sélectionnés devenaient ainsi des mamelouks et recevaient une éducation religieuse musulmane et une formation militaire. Arrivés à l'âge adulte, le sultan ou l'émir, le chef militaire, les affranchissait et leur fournissait un équipement et une solde. Les mamelouks devaient conserver toute leur vie l'esprit de corps et ainsi pouvaient être élevés à des grades supérieurs aux Égyptiens eux-mêmes, des gardiens serviles. Avant de prendre leur liberté en 1250, ils étaient au service de la dynastie des Ayyoubides. Étonnant, les Ayyoubides aussi, avant de prendre leur liberté et de former leur propre dynastie, étaient au service d'un autre royaume, celui de Néroudine, l'émir d'Alep. En 1146, avant que les Ayyoubides ne le renversent, Noureddin était une des principales figures d'opposition aux croisés venus d'Europe. Noureddin prônait l'unification des musulmans. Mais les croisés venus d'Europe pour chercher le tombeau du Christ, dans l'actuelle Syrie et en Égypte, l'affaiblirent. Et c'est à ce moment-là que les Ayyoubides se libérèrent et fondèrent leur propre dynastie et réduirent les Mamelouks en esclavage à leur tour. En 1170, Noureddin est renversé par les Ayyoubides. En 1250, les Ayyoubides sont renversés par les Mamelouks, qui forment eux aussi une dynastie où se succèdent 49 sultans. Et en 1517, les Mamelouks égyptiens sont renversés par les Turcs ottomans. La Palestine passe alors sous l'autorité de l'Empire ottoman. Quelques siècles plus tard, une autre communauté importante dans l'histoire de cette région arrive en Palestine, alors que l'Empire ottoman est aux manettes. Il s'agit des Abbades de Lubavitch. Les Abbades de Lubavitch, aussi appelés les Hassim Abbades, est le mouvement principal de la religion juive encore aujourd'hui. Le mouvement religieux des Abbades de Lubavitch s'est formé en Biélorussie à Liozna en 1772.
Histoire mondiale d'hier et d'aujourd'hui des abbades de Lubavitch. 3 siècles en 1 minute. C'est parti!
Formé en 1772 à Liozna, actuelle Biélorussie, le centre du mouvement déménage à Lubavitchi en Russie jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des nazis où le siège déménage à New York. Aujourd'hui, le mouvement juif orthodoxe des Abbades de Lubavitch existe dans plus de 75 pays à travers le monde, 3300 institutions dans 950 villes, lieux de formation, centres communautaires, synagogues, écoles, camps de vacances. En 2007, 1350 établissements figuraient dans l'annuaire Abad. La présence des membres de cette communauté est particulièrement importante aux États-Unis, en Israël, en France, en Russie, au Kazakhstan, en Pologne et en Inde.
Revenons à la Palestine. En 1776, les Abbades de Lubavitch arrivent en Palestine, qu'ils nomment la Terre Sainte. Ils s'installent à Tibériade et dans ses environs, à Jaffa et à Jérusalem. Et dans les alentours de Jérusalem, ils s'installent plus précisément à Hébron, qui se trouve à 35 km au sud de Jérusalem. Hébron est un lieu auquel les Abbades sont très attachés, car il s'y trouve le tombeau des patriarches, les tombes de Abraham, Isaac, Jacob et leur épouse, des personnages très importants dans la religion juive. En 1823, pour augmenter la présence des Abbades Lubavitch en Palestine, un de leurs rabbis de Russie exhorte sa communauté de déménager à Hébron. En 1844, c'est même la fille d'un rabbin, la rabbezine Menoua Rokel Slonim, qui quitte la Russie pour Hébron. Elle y devient la matriarche de la communauté abbade en Palestine et Hébron est déclarée capitale des abbades de Lubavitch en Palestine par la communauté. Au même moment, l'Empire ottoman qui tient sous son protectorat la Palestine se disloque. En effet, l'Empire est confronté à des volontés d'indépendance de la part des différentes régions qui l'occupent. Déjà, en 1830, soutenue par les puissances occidentales, la Grèce avait réussi à obtenir son indépendance, main dans la main avec le gouverneur d'Égypte qui lui aussi se moquait de l'Empire, se comportant comme un souverain indépendant. Le gouverneur d'Égypte avait même eu l'audace de nommer son propre fils à la succession, ce qui à l'époque, de la part d'un serviteur de l'Empire, constituait un précédent. Qui plus est, en 1853, l'Empire ottoman doit faire face à la guerre de Crimée face aux Russes et ne résiste aux assauts de ceux-ci que parce que le Royaume-Uni et la France le protègent. Et cette protection lui coûtera très cher. Peu de temps après, la France s'empare de l'Algérie, puis de la Tunisie, et le Royaume-Uni de l'Égypte, bien qu'elle soit indépendante de fait depuis le 19e siècle. En 1863, nouvelle débâcle pour l'Empire ottoman. Côté finances cette fois-ci, les finances et les douanes de l'Empire passent sous la tutelle de la Banque impériale ottomane, dirigée par un consortium franco-anglais. Et ceci critique, absence de vrai budget, irrégularité dans les rentrées fiscales et endettement croissant. L'Empire ottoman perd encore d'autres territoires. En Afrique du Nord, puis le Dodécanèse, un archipel d'îles de la mer Égée dans la guerre italo-turque de 1911, et pratiquement tous ses territoires européens lors des guerres balkaniques de 1912 à 1913. Alors en 1914, quand il faut choisir entre les deux camps de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman ne choisit pas l'entente, qui se compose de la France, de l'Angleterre et de la Russie, mais choisit de s'allier à l'Empire allemand. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Les batailles qu'ils lancent sont des échecs et le territoire est ravagé par les épidémies et les famines. Pourtant, l'Empire continue ses exactions, entraînant avec lui ses territoires et notamment la Palestine. En 1915, l'Empire ottoman est responsable du génocide arménien, faisant plus de 1 200 000 morts. Les deux tiers de ces populations chrétiennes présentes sur le territoire de l'Empire furent exterminées. De 1914 à 1920, c'est le génocide assyrien, causant la mort de plus de 500 000 personnes, ce qui représente environ 70% de la population assyrienne de l'époque. Côté Palestine, les appels à volontaires pour s'enrôler dans l'armée de l'Empire ne sont pas suivis. Par contre, les rébellions menées par Hussein Ben Ali, shérif de la Mecque, qui a des ententes avec les Britanniques et dit vouloir libérer la péninsule arabique et créer un État arabe unifié, séparé de l'Empire ottoman, s'intensifient. Et le 1er novembre 2022, l'Empire ottoman est officiellement fini. Et la Palestine entre sous mandat britannique. Les noms de Palestine mandataire ou Palestine sous mandat britannique désignent le statut politique proposé par la Société des Nations Unies en 1920. Une résolution attribuant au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine. Il ne s'agit alors que d'un mandat provisoire, mais que les Britanniques décident de mettre en œuvre dès le 1er juillet 1920. Et après différents échanges entre l'Empire britannique et la Société des Nations Unies, le mandat définitif entre en vigueur le 29 septembre 1923. Ces termes exacts et sa délimitation ont été l'objet de tractations entre Britanniques, Français, habitants de Palestine, de toute religion, dans le contexte des différents accords et promesses passées entre eux. Tel que le définit la déclaration Balfour du 2 novembre 1917, reprise dans les dispositions du mandat, le mandat a pour objectif la mise en place en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif sur la base du lien historique existant entre le peuple juif avec la Palestine dans le but de reconstruire leur foyer national dans ce pays, étant clairement entendu que rien ne serait fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. Fermez les guillemets. Tout le monde n'est pas content de cette nouvelle attribution. Imposer d'accueillir une nouvelle communauté, de laisser des terres et de se plier aux règles de la Société des Nations, le nationalisme palestinien émerge. Des émeutes arabes se propagent contre plusieurs agglomérations juives. Les plus meurtrières éclatent à Jérusalem et à Jaffa, ce qui amène à limiter les dispositions de la déclaration Balfour sur l'immigration juive, afin d'apaiser la population arabe. Elles sont même suspendues ensuite par Herbert Samuel, le haut commissaire britannique en Palestine, qui décrète l'état d'urgence, et nomme Mohamed Amin al-Husseini grand moufti de Jérusalem. cet homme éduqué pour succéder à son père, ancien moufti de Jérusalem, est membre d'un des clans les plus puissants de la cité. Malgré qu'il ait combattu aux côtés de l'Empire ottoman contre les Britanniques, qu'il ait participé au renversement de la lignée des Hachémites et qu'il soit antisémite, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les gens de confession juive, les Britanniques lui offrirent leur soutien pour qu'il devienne grand moufti de Jérusalem. Rapidement, Mohamed Amin al-Husseini deviendra l'instigateur des révoltes qui se tiendront contre les autorités britanniques et les juifs. En effet, 5 ans plus tard, le grand moufti ne se laisse pas convaincre par les Britanniques qui l'ont nommé. Devenu chef du mouvement nationaliste palestinien en 1925, il prône la lutte armée comme action politique pour récupérer les terres et empêcher le pillage des monuments par les juifs. En 1929, les émeutes de Palestine s'accélèrent. Suite à des rumeurs selon lesquelles les Juifs essaieraient de conquérir les lieux saints de Jérusalem, ces émeutes font au total 133 victimes juives et 116 victimes arabes. L'un des massacres les plus symboliques de cette période est le massacre d'Hébron, le 24 août 1929. La ville choisie par les Abbats de Lubavitch comme leur capitale en Palestine, où depuis ils ont développé la première école de confession juive du territoire. Pendant le massacre d'Hébron, les maisons de la population juive et les synagogues sont pillées, 67 juifs sont tués, 53 blessés, mais la majorité de la communauté juive d'Hébron, 435 individus environ, survivent. La plupart disent avoir été sauvés par des familles arabes, leurs voisins. Malgré tout, la communauté juive n'est plus acceptée par la suite dans la région. Ce massacre joue un rôle déterminant dans l'histoire du nationalisme palestinien et du sionisme, car il met un terme à une présence juive de plusieurs siècles à Hébron, où même les Abbats de Lubavitch ne s'y risqueront pas avant 1967. Définition. Le sionisme est un mouvement national du peuple juif visant à la formation d'un foyer national juif et à l'autodétermination du peuple juif en terre d'Israël, correspondant à peu près à Canaan, à la Terre Sainte ou à la région de Palestine, leur lieu saint. Wikipédia. En 1930, au lendemain du massacre d'Hébron, le mouvement nationaliste palestinien s'affirme encore, en coordination avec le grand moufti de Jérusalem qui fonde une organisation paramilitaire, la Main Noire, pour lancer des attaques contre les Juifs et les Britanniques. En 1937, le nationalisme palestinien est conforté par les déclarations antisionistes de l'ensemble des régions arabes limitrophes. Alors, afin d'apaiser le soulèvement de la population arabe de la Palestine mandataire et craignant de faire basculer les Arabes dans le camp de l'Allemagne à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques publient en 1939 ce qu'ils appellent le Troisième Livre Blanc, par lequel ils réduisent drastiquement l'immigration juive, limitent la vente de nouvelles terres aux Juifs et annoncent que sous 10 ans, la Palestine pourra devenir un État indépendant. Unitaire, comme l'exigent les dirigeants arabes palestiniens. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le conflit entre la communauté juive et la communauté arabe de Palestine conduit à l'abandon par les Britanniques du mandat qu'ils décident de remettre à l'ONU. Celle-ci décide de procéder à un vote de partage du territoire en vue d'y créer un État juif et un État arabe, tout en faisant de Jérusalem et de ses alentours un corpus separatum sous statut international. Le plan de partage est voté à l'Assemblée générale de l'ONU le 29 novembre 1947, même si le plan est rejeté par les pays arabes et les Arabes de Palestine. Le 14 mai 1948, la veille de l'expiration du mandat britannique, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Immédiatement après la proclamation, des contingents de 4 des 7 pays membres de la Ligue arabe à cette époque, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie et la Syrie, ainsi que l'armée de libération arabe, envahissent le nouvel État d'Israël. On parle alors d'un petit David juif confrontant un Goliath arabe géant. Pourtant, pour le commandant en chef des forces britanniques de Palestine, le général John Darcy, l'armée nouvelle d'Israël, qui a été créée et se développe depuis les années 30, la Haganah, est la plus puissante force militaire du Moyen-Orient, à part l'armée anglaise. Durant la période du 15 mai 1948 à la mi-avril 1949, plus de 350 000 Palestiniens prennent la route de l'Exode, fuyant les combats ou expulsés des zones contrôlées ou conquises par Israël. Simultanément, la situation des Juifs dans plusieurs pays arabes s'aggrave à la suite d'émeutes ou de politiques ouvertement antisémites comme en Irak, et l'immigration des Juifs hors des pays arabes s'amorce. En 1949, Israël signe des armistices séparés avec l'Égypte, le Liban, la Jordanie et la Syrie. Selon ces accords d'armistice, le territoire d'Israël comprend environ 78% de la Palestine mandataire, soit 18% de plus que défini par proposition de partition de l'ONU. 1949, la bande de Gaza et la Cisjordanie sont respectivement occupées par l'Égypte et la Jordanie, qui incorporent ces régions ainsi que la vieille ville de Jérusalem à leur espace territorial. Le 20 septembre 1948, la Ligue arabe déclare la création d'un gouvernement palestinien et le 22 septembre, un gouvernement arabe de toute la Palestine est établi dans la bande de Gaza occupée par l'Égypte. Cette décision n'est pas acceptée par la Jordanie et n'est suivie d'aucune reconnaissance internationale. Le nationalisme palestinien renaît dans le milieu des années 60. Le Fatah, une des organisations regroupées au sein de l'OLP de Yasser Arafat, l'Organisation pour la libération de la Palestine, installe en Jordanie un véritable État dans l'État. La Jordanie est un pays très jeune qui a été créé quelques années auparavant lors du plan de partage pour tenter de préserver de bonnes relations avec la dynastie des Hachémites, très puissante dans la région. Pourtant, les régions de Jordanie où les Palestiniens rejettent en masse l'autorité du roi Hussein de la dynastie Hachémite se multiplient. Depuis ces zones palestiniennes, l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, effectue des raids et des attaques terroristes contre le reste du territoire jordanien et contre Israël. Yasser Arafat, le leader de l'organisation, appelle ouvertement au renversement de la monarchie hachémite en s'appuyant sur le fait que 75% des habitants de la Jordanie sont alors palestiniens. Bientôt arrive la guerre de six jours, du lundi 5 au samedi 10 juin 1967. Cette guerre fait suite à la crise du canal de Suez, qui s'est tenue en 1956, 10 ans auparavant.
La crise du canal de Suez en 45 secondes.
En 1956, le président égyptien Nasser nationalise le canal de Suez. Pas content de devoir payer leur passage, la France et le Royaume-Uni soutiennent ensemble une attaque israélienne dans le Sinaï jusqu'au canal de Suez. La condamnation fut unanime dans le monde.
Salut la France, salut le Royaume-Uni, salut Israël. Pourquoi vous ne voulez pas payer des droits de passage et laisser les Égyptiens nationaliser un point économique et géostratégique important de leur territoire dont tout le monde se sert? Arrêtez de faire la guerre dès que vous êtes fâchés.
Les États-Unis, l'Union soviétique et l'ONU s'accordèrent sur la nécessité du retrait israélien et l'URSS menaça même Paris et Londres d'une frappe nucléaire. Néanmoins, tout se passa très bien et le canal de Suez fut nationalisé.
C'est dans ce contexte de tensions territoriales, commerciales et militaires que se développa la guerre de six jours presque 10 ans plus tard. Le 16 mai 1967, l'Égypte déclare un état d'alerte et procède à d'importants mouvements de troupes dans le désert du Sinaï, exigeant le départ des forces militaires de l'ordre de l'ONU qui s'y trouvent depuis 1957. Le 23 mai 1967, Nasser, qui en plus d'être président d'Égypte est devenu président de la République arabe unie, l'alliance développée avec la Syrie et le Yémen suite à la crise du canal de Suez, décide de bloquer l'accès pour les navires israéliens au détroit de Tiran, route du Sud essentielle aux Israéliens pour l'approvisionnement en pétrole. Cette décision est sans précédent dans les accords internationaux sur les droits de passage dans le détroit, signés en 1957 par 17 puissances maritimes. Israël considère cela comme un casus belli et sort à nouveau les armes. Commence alors la guerre de six jours, du lundi 5 au samedi 10 juin 1967, opposant Israël à l'Égypte, la Jordanie et à la Syrie. Les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes furent défaites. Les chars de l'armée israélienne bousculèrent leurs adversaires sur tous les fronts. En moins d'une semaine, l'État hébreu tripla son emprise territoriale. L'Égypte perdit la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. La Syrie fut amputée du plateau du Golan et la Jordanie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Plus symbolique encore que la défaite arabe fut la prise de la vieille ville de Jérusalem. Au sortir de la guerre, la navigation des navires israéliens par le détroit de Tiran fut assurée à nouveau et Jérusalem, qui était divisée entre Israël et la Jordanie depuis 1949, fut proclamée réunifiée sous contrôle israélien. Dans l'observation, le Conseil de sécurité des Nations Unies se dit en désaccord. et opta en 1967 la résolution 242 qui réclamait la fin immédiate de l'occupation israélienne. Cette résolution reste encore inappliquée. Elle ne précise toutefois pas comment devraient être restitués les territoires dont elle demande l'évacuation par Israël. Les territoires aujourd'hui dits palestiniens étant avant 1967 sous contrôle jordanien ou égyptien. Le 12 septembre 1970, Hussein de Jordanie déclenche des opérations militaires contre l'Organisation de libération de la Palestine pour restaurer la légitimité de sa monarchie à la suite de plusieurs tentatives palestiniennes de la renverser. Le conflit entre l'armée jordanienne et l'OLP dégénère et se poursuit jusqu'en juillet 1971, date à laquelle Arafat et ses combattants sont finalement expulsés de Jordanie et trouvent refuge au Liban sous protection syrienne. Pourtant, le 15 novembre 1988 a lieu la déclaration d'indépendance de la Palestine à l'initiative de l'Organisation de libération de la Palestine en exil à Alger. Cette déclaration d'indépendance est reconnue par la Ligue arabe, regroupant aujourd'hui 22 États, et par l'Organisation de la coopération islamique auquel s'ajoutent 37 autres États. En 2011, la Palestine est acceptée par l'UNESCO en tant qu'organisation. En 2012, l'État de Palestine est reconnu comme État observateur non membre de l'ONU. Et en 2017, l'État de Palestine est reconnu par 136 États, c'est-à-dire 70,5% des 193 États membres que compte l'Organisation des Nations Unies. L'hymne que nous allons entendre maintenant s'intitule « Fidaï ». C'est l'hymne national de l'Organisation de libération de la Palestine, proclamé en 1988 en accord avec l'article 31 de la charte de l'OLP proclamant l'indépendance de la Palestine. Déjà adopté par l'Organisation de libération de la Palestine en 1972, cet hymne est composé par l'Égyptien Ali Ismaël et ses paroles sont écrites par le poète palestinien Saïd al-Muzayyin. Il parle des insurgés qui s'opposent à Israël. Fidaï signifie « celui qui se sacrifie pour quelque chose ou quelqu'un ». Bonne écoute!
We'll be right back.
C'est les allumeurs de réverbères.